Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SRJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'économie en prépa à Rouen, et tous les lundis, je décortique avec vous un sujet d'économie. Aujourd'hui, on va parler de chômage, d'expérience naturelle et d'inertie patronale. Si vous avez écouté les débats de politique économique ces 30 dernières années, il y a forcément une chose que vous avez entendue à plusieurs reprises. Notre marché du travail est trop rigide. Les entreprises aimeraient bien embaucher, mais on les force à garder les salariés toute leur carrière, jusqu'à la retraite, sans pouvoir s'en séparer en cas de nécessité. Et ça, ce serait l'effet du CDI, le contrat à durée indéterminée. Faut-il supprimer le CDI ? Une entreprise qui traverse une mauvaise passe ou qui a embauché quelqu'un qui s'avère surnuméraire doit lui verser un quart de mois de salaire par année d'ancienneté s'il est depuis 10 ans ou moins dans la boîte, si elle le licencie. Et encore plus, un tiers de mois de salaire par année, au-delà de 11 ans. Et pour licencier quelqu'un en CDI, il faut de bonnes raisons. Une faute de la part du ou de la salariée, un motif économique comme un plan de sauvegarde de l'emploi, par exemple. Et ça, ça prend du temps, ça peut être contesté devant un tribunal de prud'homme, ça coûte cher tout ça, si vous raisonnez du côté de l'employeur. Bref, avant d'embaucher quelqu'un en CDI, vous y réfléchissez à deux fois. Et peut-être même finirez-vous par y renoncer. Et voilà l'une des explications du chômage français qui peine à descendre en dessous des 7%, même dans les périodes de croissance. Plus encore que d'entraîner du chômage, le CDI est accusé de favoriser ce qu'on appelle le dualisme du marché du travail. D'un côté des insiders bien protégés et qui connaissent des carrières sans interruption dans de grandes organisations, en CDI ou dans la fonction publique. De l'autre, des outsiders qui végètent dans le précariat, enchaînent les contrats courts, l'intérim, les périodes de chômage et d'inactivité. C'est une manière un peu rapide de dresser le tableau de l'emploi en France, comme le dit Camille Signoretto.
Et effectivement, se focaliser sur la réglementation du contrat de travail, notamment du CDI, pour expliquer certains, comme ils appellent ça, dysfonctionnements du marché du travail. Donc, soit le chômage ou éventuellement cette dualité du marché du travail dont on parle régulièrement. Il y a aussi derrière, et c'est en lien, hein, certaines institutions internationales qui, effectivement, à travers la construction d'indicateurs qui est censé résumer, en fait, synthétiser la législation autour de l'emploi et du travail, CDI, mais aussi CDD, ensuite accusent, on va dire, souvent les rigidités du CDI d'être à l'origine de la dualité du marché du travail. Au-delà de la dualité, en fait, dans le sens le marché du travail serait dual avec les CDI et les CDD, il y a une autre, on va dire, peut-être branche de l'économie, un autre champ de l'économie qui essaye d'aller un petit peu plus loin que cette dualité et qui va parler davantage de segmentation. Mais du coup, segment, ça veut dire pas forcément deux, ça veut dire qu'il peut y en avoir plusieurs. Et dans les théories de la segmentation, qui sont des théories institutionnalistes en économie, on va plutôt s'attacher à étudier en fait comment certaines pratiques des employeurs vont conduire à l'émergence de différents segments sur le marché du travail. Ces segments, ce n'est pas juste les personnes qui sont en CDI et les personnes qui sont en CDD. On va prendre d'autres on va dire, critères que le contrat de travail. On va regarder aussi le contrat est à temps plein ou à temps partiel, si la rémunération est plutôt élevée, moyenne, faible, et éventuellement d'autres indicateurs. Du coup, dans ce type d'approche, on va d'abord regarder la durée de la relation d'emploi plutôt que le contrat de travail, ce qui permet de mettre moins l'accent, on va dire, sur et moins d'accuser comme ça le contrat de travail que d'essayer d'analyser pourquoi certains employeurs vont être amenés à effectivement avoir ce type de pratique.
Bon, il semble que cette histoire de dualisme soit une simplification un peu trop rapide du marché du travail français. Mais tout de même, lorsque certains travailleurs sont bien protégés alors que d'autres sont recrutés seulement pour 2 mois en temps partiel avec 0 indemnité à la fin de leur contrat, Ça crée de fortes inégalités. D'ailleurs, qu'en pensent les salariés et plus généralement celles et ceux qui cherchent du travail? Est-ce que tout le monde cherche à être recruté en CDI? Du temps où je travaillais avec des DRH, et oui, ça m'est arrivé, j'entendais beaucoup le refrain selon lequel les jeunes ne veulent pas se lier définitivement avec un seul employeur et ne sont pas mécontents d'aller de CDD en CDD. En réalité, la sécurité de l'emploi, ça a bien des avantages. C'est nécessaire si l'on veut trouver un appartement à louer ou souscrire un crédit pour l'acheter. Hors du CDI, point de salut. Welcome to Montero. Donc, ce contrat est recherché non seulement pour lui-même, mais aussi pour ce qu'il permet à côté. Et ça, ça se voit dans le comportement des gens qui recherchent du travail au moment où leurs allocations chômage déclinent. J'en ai parlé avec Ioana Marinescu, associate professor à l'Université de Pennsylvanie et chercheuse associée au National Bureau of Economic Research.
D'abord, la nature du contrat de travail, c'est un aspect de la compensation du point de vue des travailleurs. C'est-à-dire que quand vous regardez la valeur de l'emploi pour le travailleur, c'est pas juste le salaire, c'est toutes les conditions de travail. La condition de travail, ça inclut la sécurité de l'emploi. Et on sait que les gens, en général, la sécurité de l'emploi, c'est un plus, c'est quelque chose qu'ils aiment. Et en fait, dans mes travaux de recherche avec Daphné Scandalis sur la France, on regarde les choix des travailleurs au chômage où ils choisissent de porter leur candidature. Et on voit que plus ils ont des allocations élevées et plus ils vont se porter vers des CDI. Ce qui montre bien qu'ils préfèrent les CDI s'ils le peuvent. Ensuite, quand on leur coupe leurs allocations, ils dirigent plus vers des CDD. Donc, du point de vue du travailleur, la nature du contrat de travail, ça fait partie de l'ensemble des conditions de travail avec le salaire de ce que le travailleur recherche. Donc, si on voit ça d'un point de vue de pouvoir de négociation des travailleurs versus l'entreprise, plus le travailleur a de pouvoir de négociation, plus l'emploi va être mieux payé, mais aussi plus de sécurité de l'emploi. Parce que c'est un autre aspect qui est demandé par le travailleur.
On comprend que les actifs et les actives cherchent les contrats les plus protecteurs possibles. Ça aboutit à un chiffre qu'il faut bien avoir en tête. 85% des emplois en France sont en CDI, ou l'équivalent du CDI pour les fonctionnaires titulaires. Et parmi toutes ces travailleuses et tous ces travailleurs, il y a bien sûr des gens qui changent de job, d'entreprise, ou même qui passent à temps partiel. Il y a aussi des gens qui sont renvoyés par leur employeur avant la fin de leur période d'essai. On fait le point avec Camille Signoretto.
Effectivement, il y a un plus fort turnover, on s'est dit qu'on le pense. D'abord, il y a les fins de période d'essai, que ce soit l'initiative de l'employeur ou du salarié, est un motif vraiment assez important dans les ruptures de CDI. Avant les ruptures conventionnelles, avant les licenciements pour motifs personnels. Dans les CDI, le gros du turnover, c'est les démissions, en fait. C'est-à-dire, c'est les départs volontaires. Donc, c'est en fait d'abord les salariés qui partent. Si je vous donne quelques chiffres, en 2019, il y a environ 39% des ruptures du CDI, c'était des démissions. Donc, c'est les salariés, soit parce que voilà, leur emploi ne leur plaît pas, on dit que l'appariement, le matching avec l'employeur n'était pas bon. C'est souvent des jeunes qui démissionnent ou alors plutôt effectivement des personnes qualifiées. Après, on a 17,5% environ des ruptures du CDI en 2019, c'était des fins de période d'essai, dont plus de la moitié qui était à l'initiative de l'employeur. Donc là aussi, on peut dire qu'on est dans une phase où bah, finalement on pouvait la période d'essai permet bah, voilà, de tester le salarié le salarié ne convient pas, donc l'employeur met fin au contrat, ou alors le salarié finalement ça ne lui plaît pas, il y met fin également. Donc on a déjà pratiquement la moitié en fait des ruptures du CDI qui sont soit dans une période très courte pour la fin de période d'essai, soit les démissions, mais où il y a l'initiative du salarié. Ensuite, on a en gros c'est 15%, c'est des licenciements pour ce qu'on appelle motif personnel, 13% des ruptures du conventionnel et ensuite environ 6% des licenciements pour motif économique.
Le CDI n'est donc pas un carcan dans lequel on enfermerait les insiders et leurs patrons. D'ailleurs, initialement, la création de ces différents contrats de travail, CDD et CDI, on la doit à des groupements d'employeurs.
Ces deux types de contrats, ils sont faits pour des motifs différents pour l'employeur. D'ailleurs, dans l'histoire, au départ, c'est même plutôt les organisations patronales qui ont voulu avoir un contrat plus stable CDI, parce que justement, en fait, on avait des salariés qui étaient plutôt en position de force et qui, on va dire, choisissaient un peu leur employeur. Et c'est plutôt eux qui ont demandé à ce qu'on crée ce type de contrat pour avoir une relation d'emploi un peu plus durable.
Alors, si les CDD et les CDI ne remplissent pas la même fonction, où est le problème ? Et pourquoi les employeurs se plaignent-ils de la lourdeur et du coût du CDI ? c'est peut-être parce qu'il ne mesure pas bien son coût réel, comme le suggère Ioana Marinescu.
Honnêtement, je pense qu'il y a des employeurs qui ne s'en rendent pas exactement compte de ce que sont les règles exactement, surtout les employeurs plus petits qui n'ont pas forcément lu attentivement toutes les règles et ils entendent tout le monde à embaucher en CDD, donc on fait comme les autres. Et je pense que, donc, du coup, et c'est sûr qu'en un sens, le CDD, ça reste plus flexible, quoique je souligne que pour l'employeur, il est plus cher de rompre un CDD en cours, donc, que de rompre un CDI au tout début, puisqu'il y a des pénalités à rompre un CDD avant la fin. Donc, en fait, c'est pas aussi clair que ça, sauf si on fait un CDD de vraiment courte durée. Mais je pense que les grandes entreprises, par contre, elles ont une stratégie qui est beaucoup mieux pensée. Et elles savent comment bien déterminer la durée, etc., pour que ça marche pour elles.
Est-ce qu'il faut simplifier tout ça en supprimant le CDI ? Est-ce que ça pourrait encourager les entreprises à embaucher davantage ? Eh bien, on ne trouve pas beaucoup d'économistes qui le proposent, et ce pour deux raisons. D'une part, on ne sait pas bien si le CDI freine vraiment les embauches. Comme le disent nos deux expertes de cet épisode, les recherches en économie ont beaucoup de mal à établir un lien de causalité entre l'existence du CDI et le niveau du chômage.
L'argument que le CDI freine les embauches a été pas mal repris dans les différentes réformes du droit du travail qui ont eu lieu ces dernières années. Ça remonte même jusqu'à 2008-2009 avec la mise en place de la rupture conventionnelle du CDI. C'est l'argument souvent utilisé pour toutes ces réformes. Il faudrait en fait assouplir les règles du CDI pour permettre d'embaucher en CDI. C'est parce que l'employeur a peur, on va dire, de la difficulté que ça va être de rompre le contrat de travail, la peur de éventuellement que le salarié aille au prud'homme parce qu'il conteste la rupture du contrat ou quelque chose d'autre lié à la relation d'emploi. Donc, c'est souvent cet argument qui a été utilisé ces 15 dernières années, hein, et qui a été de nouveau réutilisé lors des ordonnances de septembre 2017. Il y a peu d'analyses, on va dire, voire pas du tout, d'analyses économétriques, comme on appelle ça, donc statistiques, mais de manière vraiment complexe, qui testent vraiment cet argument, parce qu'en fait, c'est très compliqué de le tester en soi. Si on regarde les réformes du droit du travail de ces dernières années qui ont utilisé cet argument, est-ce qu'après, et notamment après là, les ordonnances 2017, est-ce qu'on a eu tout d'un coup une explosion des embauches en CDI et qui se serait substituée, hein, bien sûr, c'est ça aussi derrière, l'argument qui se serait substitué à des embauches en CDD? Nous, en fait, on n'a pas. Quand on regarde les statistiques de manière agrégée qui sont disponibles pour tous, hein, sur le site de la DARES, on ne voit pas tout d'un coup de rupture de tendance et d'une augmentation énorme des embauches en CDI.
Ce qui est bien documenté en revanche, ce sont les problèmes posés par la juxtaposition entre des contrats courts, faciles d'accès, et des contrats protecteurs, plus coûteux pour les employeurs. En fait, la pire des solutions, c'est celle dans laquelle les employeurs peuvent profiter des effets d'aubaine de la réglementation en choisissant des contrats très flexibles alors même qu'ils devraient recruter à plus long terme. Ioana Marinescu a observé, avec Juan Ignacio Garza Pérez et Judith Valcastello, les effets d'une loi espagnole qui a libéralisé le recours à ce qu'on appellerait en France les CDD. C'est une expérience naturelle, comme on dit en économie. Une décision a été prise à un moment donné, qui crée une rupture dans les séries statistiques, et on peut donc en voir les effets en comparant ce qui se passe avant et ce qui se passe après.
Ce qui s'est passé en Espagne, c'est qu'en 1984, donc ça fait un moment, ce qui fait qu'on peut vraiment bien mesurer les effets de cette réforme, ils ont libéralisé l'usage des CDD. Et du coup, les CDD sont devenus hyper populaires en Espagne et on peut regarder, on a des données de la sécurité sociale en Espagne et on peut regarder ce qui se passe pour les travailleurs peu qualifiés, donc qui quittent l'école à 16 ans, les hommes qui quittent l'école à 16 ans. Et donc, on les suit pendant jusqu'à 27 ans après qu'ils aient commencé à entrer sur le marché du travail. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on compare ceux qui sont entrés sur le marché du travail avant cette réforme. Et du coup, s'ils allaient avoir un travail, ça allait être un CDI parce que les CDD étaient très fortement encadrés. Donc, il y en avait quand même, mais c'était assez rare. Et ensuite, les CDD ont été libéralisés. Donc, ceux qui entrent après la réforme, pour eux, c'était beaucoup plus vraisemblable qu'ils allaient obtenir un CDD pour commencer. Donc, on les suit au cours du temps et encore une fois, on les compare à ceux qui sont entrés avant la réforme et donc plus vraisemblablement un CDI. Donc, ce qu'on voit, c'est que pendant les 10 premières années sur le marché du travail, cette réforme, en fait, a réduit le nombre de jours travaillés par 5% et a réduit le salaire accumulé par 10%. C'est-à-dire que non seulement ils travaillent moins, mais en moyenne, ils travaillent pour des salaires horaires plus bas, puisque l'effet sur le salaire accumulé est plus grand que l'effet sur les heures de travail. Et en fait, après, quand on regarde un petit peu le mécanisme, on se rend compte que ce n'est pas forcément qu'ils n'obtiennent pas un travail. Et peut-être même, il y a des signes qu'au début, ils obtiennent un travail un peu plus rapidement, ce qui est souvent le but des CDD, mais ce n'est pas très clair que ce soit le cas. Mais c'est possible, selon nos données, qu'ils obtiennent un emploi un peu plus rapidement. Mais le problème, c'est qu'ensuite, ils circulent de CDD en CDD et ça crée des périodes de non-emploi qui font qu'au bout d'un moment, ça s'accumule et en fait, ils se retrouvent dans une situation pire que si les CDD étaient plus encadrés.
On en vient donc à la deuxième raison pour laquelle les économistes ne sont pas favorables à la suppression du CDI. Il vaut mieux clarifier les règles pour tous les employeurs et tous les actifs plutôt que de fabriquer des contrats différents les uns des autres. Ce serait en fait plus simple de généraliser le CDI en modulant les indemnités de licenciement en fonction de l'ancienneté. L'idée, c'est d'éviter les effets de seuil qui tiennent à l'existence de contrats très différents. Plutôt que de sauter du CDD au CDI, avec le risque que celui-ci s'avère effectivement très coûteux à terme pour l'employeur, on propose à tous les salariés le même type de contrat, mais avec une protection d'autant plus élevée que l'on reste longtemps dans cet emploi.
La suppression du CDI, déjà, elle pose la question de qu'est-ce qu'on mettrait à la place. Donc, les économistes qui demandent, qui à un moment donné ont proposé effectivement une suppression du CDI, en fait, ils proposaient aussi une suppression du CDD et de le mettre dans ce qu'ils appelaient un contrat unique, où du coup, il y aurait des indemnités, un coût de rupture ou des indemnités qui dépendraient de l'ancienneté, un petit peu comme pour le moment avec le CDI. En fait, c'est plutôt les employeurs qui ont, les organisations des employeurs patronales qui n'étaient pas très favorables à ce type de, à la fin des années 2000, là, qui n'étaient pas très favorables à ce type de contrat, puisqu'ils veulent garder justement la possibilité d'avoir un CDD pour vraiment des motifs précis, remplacement, pic d'activité, etc.
En fait, il y a déjà eu des réformes visant à aménager le CDI, comme la création de la rupture conventionnelle, qui permet de se séparer à l'amiable sans pour autant démissionner, donc en touchant les indemnités chômage. La loi travail de 2016, puis les ordonnances Macron de 2017, ont également cherché à flexibiliser le marché, en rendant plus facile, plus rapide et moins coûteux les licenciements.
Parce que c'est notre projet !
Ça ajoute plutôt de la complexité qu'autre chose. On a aussi introduit une taxation des contrats courts, mais qui n'en est pas vraiment une, d'après Camille Signoretto.
La façon dont on l'a mis en place en France n'est pas vraiment en fait une taxation des contrats courts, c'est une taxation des séparations, du taux de séparation. On n'a pas fait simple, enfin... Quand je dis on, c'est le gouvernement et ceux qui ont mis en place ça, ils n'ont pas fait ça parce que au lieu de se dire bon bah voilà, on regarde dans une entreprise la part entre des contrats de moins d'un mois de l'ensemble de son emploi de l'année et s'il est supérieur à effectivement la moyenne ou la médiane du son secteur d'activité, hein, souvent ça va être quelque chose comme ça, alors on va augmenter de tant de points de pourcentage son taux de cotisation patronale. On n'a pas pris ça, on a pris en fait l'ensemble des séparations, donc y compris des licenciements en fait de CDI, licenciement pour motif personnel, licenciement pour motif économique, etc. Donc d'une part, on parle beaucoup de taxation des contrats courts, en fait c'est la taxation des séparations, et du coup déjà l'objectif il est pas le même, enfin ou les conséquences vont pas être les mêmes. C'est qu'on va pas faire un malus à des employeurs qui utilisent beaucoup les contrats courts, mais aussi éventuellement à des employeurs qui ont dû faire un certain nombre de suppressions d'emplois, etc. Donc déjà ça c'est assez critiquable, on va dire, donc sur la forme. Et l'autre chose, encore une fois, sur la façon dont on l'a mis en place en France, on l'a restreint à certains secteurs d'activité, et notamment finalement dans les secteurs d'activité qui ont le plus contribué ces dernières années à l'augmentation de ces contrats courts, la plupart n'y sont pas. Alors pourquoi ? Parce que il y a eu du lobby de certains secteurs d'activité derrière. On a fait plein d'exceptions. Donc au final, l'idée en soi au départ de effectivement changer les comportements par des incitations, notamment financières. Pourquoi pas, ça peut être testé. mais il faut que le coût en plus, le malus, il soit quand même assez important, ce qui n'est pas le cas actuellement.
C'est peut-être ça la principale difficulté en matière de législation sur le travail en France. Les réformes sont pensées par des cabinets ministériels, présentées aux partenaires sociaux à un niveau très agrégé, mises en œuvre sans vraie négociation, mais avec un tas d'exceptions introduites par des lobbies. Pas étonnant que ça devienne illisible et qu'il y ait beaucoup d'effets d'aubaine pour les employeurs, mais aussi des règles très difficiles à connaître in extenso. Et puis il y a beaucoup d'inertie dans les comportements des employeurs. Il faudrait donc taxer lourdement les contrats courts si l'on veut qu'ils soient moins utilisés. En revanche, généraliser le CDI, comme je le disais tout à l'heure, et même en faire le contrat de travail unique, ça permettrait de simplifier un peu tout ça. Et ça redonnerait du pouvoir de négociation aux travailleurs et aux travailleuses qui n'en ont pas beaucoup pour l'instant. Je vous renvoie à l'un de nos épisodes précédents, à quoi ça sert de se syndiquer, où on en parlait avec Thomas Breda. On peut se dire que les licenciements de salariés qui ont beaucoup d'ancienneté resteraient coûteux pour leurs entreprises. Mais d'une part, comme le dit Camille Signoretto, c'est un choix de société que l'on peut très bien assumer. On ne renvoie pas quelqu'un au bout de 10 ans de boîte avec un simple mail et un petit chèque. D'autre part, il se trouve que ça peut encourager les entreprises à investir dans leurs salariés, et pas seulement à s'inquiéter de leurs coûts.
Ça augmente le pouvoir de négociation de cette personne en emploi. Et notamment, l'un des résultats que j'ai montré pour, par exemple, pour des réformes des coûts de licenciement au Royaume-Uni, c'est que une fois que le coût de licenciement est plus élevé, l'entreprise tend à investir plus, par exemple, dans la formation professionnelle aussi. Parce qu'encore une fois, ça devient à la marge plus rentable de former la personne, faire en sorte qu'elle va faire du bon boulot, à rester là, plutôt que de se débarrasser de la personne parce que c'est plus cher. Et donc, ça crée encore une fois un pouvoir de négociation accru pour le travailleur qui est déjà en emploi d'obtenir des choses qui ont de la valeur pour le travailleur. Et donc du coup, ça compte vraiment de penser au pouvoir de négociation relatif des salariés versus des entreprises. Et bien sûr, la loi est là pour intervenir et changer ce pouvoir de négociation. Et effectivement, avec les coûts de licenciement, ça diminue le pouvoir de négociation des entreprises par rapport aux salariés.
Alors, conclusion, est-ce qu'il faut supprimer le CDI pour lutter contre le chômage? La réponse est clairement non. Le CDI n'est peut-être pas responsable du chômage français, mais il correspond à la grande majorité des emplois. Ce serait une mauvaise solution que de le supprimer. Il faut que certaines entreprises puissent continuer à recruter des gens pour une durée courte, pour des missions par nature limitées. Mais pourquoi ne pas le faire avec un contrat unique, sur le modèle du CDI, avec période d'essai et indemnité calculée en fonction de l'ancienneté? En fait, si on veut éviter la segmentation trop forte du marché du travail, il vaut mieux généraliser le CDI, en l'adaptant à la marge aux situations des entreprises qui ont besoin de plus de flexibilité. Bien sûr, une fois qu'on a proposé ça, reste un paquet de détails à préciser, comme le faisaient déjà remarquer Gilles Berset et Jacques Barthélémy, en qualifiant la proposition d'un contrat unique de travail d'auberge espagnole. Mais supprimer les effets de seuil qui tiennent à la distinction CDI-CDD, c'est en fait assez simple. On peut même se prendre à rêver et espérer que ce type de réforme ne soit pas faite dans le secret d'un ministère qui décide de tout, tout seul, mais plutôt par le biais de négociations fondées sur des constats établis sur le terrain auprès des salariés et des employeurs. Splash est une émission de Nouvelles Écoutes. Elle est présentée et écrite par moi, Emmanuel Martin. Production et réalisation, Marine Rowe. Coordination par Mathilde Jeunin. Mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio.